carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Yves Escala, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes producteur indépendant, votre maison d'édition et de production s'appelle Zoroastre et le premier DVD que vous proposez est consacré à un très grand peintre français, un peu oublié aujourd'hui, Georges Mathieu, dont la peinture, l'œuvre et la pensée étaient pourtant très reconnues et même connues du grand public. Alors Georges Mathieu est membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis 1975. Mathieu n'est pas mort, il est simplement plus discret. Il doit avoir 88 ans par là. Le DVD Georges Mathieu ou La fureur d'être que vous allez nous présenter est la réédition d'un film de Frédéric Rossif réalisé en 1971. Et La fureur d'être, c'est aussi le titre d'un livre de Mathieu. Alors, le DVD a un intérêt documentaire certain puisqu'on y voit Mathieu en train de peindre, filmé par deux caméras, en train donc de créer en parallèle avec l'improvisation musicale simultanée du compositeur Vangelis, qui a fondé le groupe des Aphrodite Childs avec Demis Roussos, un peu après 68, qui a signé plus tard les musiques de films, des films Les Chariots de Feu, Blade Runner et 1492, Christophe Colomb. Alors le film de Frédéric Rossif est l'histoire d'une rencontre entre artistes et d'un moment de création sous l'œil de la caméra. Alors, c'est un film qui a été pratiquement pas vu, qui n'a pas été diffusé dans les salles, donc vous allez nous raconter tout ça. Et on connaît les documentaires de Frédéric Rossif, et là, le film, vous l'avez fait restaurer. Alors, il est accompagné, ce DVD, ce film, cette réédition de bonus, parmi lesquels une interview de Mathieu réalisée en 2006, et ça aussi, c'est plutôt rare. Alors, Yves Escala, nos auditeurs l'auront bien compris, parler de la sortie de ce DVD. Et pour un petit peu, avant de commencer, pour présenter le peintre de l'abstraction lyrique, Georges Mathieu, je dirais que son œuvre fait table rase des acquis de la peinture des siècles précédents, quand il peint en tout cas. Il se libère de toutes les esthétiques antérieures. C'est lui qui invente un langage pictural et philosophique nouveau après la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut juste savoir, pour bien comprendre l'intérêt du DVD, c'est que Mathieu peignait en public quelques jours par an. Bien sûr, il faut aller voir ses toiles dans les musées. Et j'invite aussi nos auditeurs à écouter les autres émissions de Canal Académie que nous consacrons à Georges Mathieu. Yves Escala, comment est née l'aventure de ce DVD pour vous ?
Alors, ce DVD est né il y a quelques années, lorsque j'ai redécouvert parmi les bandes de Georges Mathieu, qui lui appartenaient, une vieille bande en 16 mm que Frédéric Rossif lui avait confiée de ce film-là, Georges Mathieu ou La fureur d'être. Donc, j'ai eu un véritable coup de cœur pour le film, tant dans sa forme que dans son contenu, et j'ai entrepris tout d'abord de pouvoir le présenter à la Cinémathèque française, pour rendre hommage à Rossif et à Georges Mathieu en organisant une soirée spéciale qui a été parrainée par Télé 7 Jours.
C'était
ça, ça remonte au 28 mai 2002. Et donc,
ça
on
avait
a retrouvé...
été quoi votre coup de cœur sur ce film ?
Écoutez, moi,
parce que vous
j'apprécie...
êtes tombé dessus dans les archives de Mathieu ?
Oui, parce que j'ai archivé toutes ces archives filmiques, nettoyées, et j'ai donc tout regardé. Et j'avais beaucoup d'appréhension vis-à-vis de ce film parce que on le voyait toujours cité dans les différentes biographies ou livres consacrés à Mathieu. Mais j'avais jamais eu l'occasion de le voir auparavant. Et donc, j'avais beaucoup d'appréhension et j'avais peur d'être un peu déçu en me disant peut-être que ça a mal vieilli. Et finalement, toutes ces appréhensions se sont envolées rapidement et j'ai été très ému à la première vision du film parce que j'ai trouvé que, contrairement parfois à l'image qu'on peut avoir de Georges Mathieu, il y a des moments très émouvants dans lequel Rossif a su mettre sa caméra à la bonne distance pour pouvoir témoigner à la fois de ce que Mathieu est en tant qu'homme, en tant qu'artiste, et de montrer comment c'est indissoluble de son œuvre, de le montrer en train de créer, de pouvoir peindre en direct. Et donc, il y a eu peu de films, finalement, qui ont approché la création d'artistes en train de travailler. Il y a le film de Clouzot, mais je trouve que celui-ci est différent et il dénote aussi dans la filmographie de Frédéric Rossif.
Vous parliez des archives filmiques de Georges Mathieu. Il y en a beaucoup.
Écoutez, il y a eu pas mal de films qui ont été, que ce soit des films d'actualité, Pathé, Gaumont, ou des émissions de télévision qui passaient. Il faut se rappeler que Georges Mathieu, et c'est quand même assez rare aujourd'hui de pouvoir imaginer ça, en 61, il peint Le Grand Dauphin dans les studios de Boulogne-Billancourt, devant les caméras de télévision. Ça passe en première partie de soirée, alors qu'il n'y avait qu'une chaîne. Et le lendemain, tout le monde en parle. Et d'ailleurs, lui-même, il a une anecdote qu'il rapporte dans un de ses livres, le pompiste le reconnaît. Je veux dire, voilà, il y avait une... Peut-être ce qui était de l'avant-garde était proposé au plus grand nombre.
Sans compter la démarche propre de Mathieu avec la pièce du 10 francs, avec d'autres...
Oui, ça c'est
encore
avant.
Autre chose.
C'est arrivé
voilà,
avant.
Ça, c'est ce que vous venez de dire, c'est arrivé
oui,
avant.
Oui, oui,
voilà.
Voilà.
Alors, est-ce que vous pensez que ce film de Rossif, réalisé en 71, a vieilli un petit peu ou pas? Vous nous disiez que non tout à l'heure.
Non, moi je pense que non, parce que vous savez, le propre d'un documentariste, c'est de toujours, et pour un photographe c'est la même chose, c'est de savoir trouver la bonne distance avec son sujet, de savoir où il va placer sa caméra. Et d'ailleurs, dans les bonus de DVD, on peut lire le scénario original.
Justement, à la fin du DVD, on peut lire le scénario original qu'on trouve dans les bonus. Et je l'ai lu et j'ai trouvé que le scénario était beaucoup plus fort, personnellement, que le film.
Mais pour moi, voilà, c'est tout le propos du cinéma. C'est que le scénario a un aspect très didactique. Et je pense qu'au cinéma, ce qui est très mauvais, le danger, c'est de penser les images. Une image, elle doit exister par elle-même. Et un peu comme dans la peinture de Mathieu, c'est le plan précédent qui fait vivre celui, qui annonce celui, comme un accouchement, celui qui arrive. Et donc, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit pensé, il faut que ce soit une véritable respiration à 24 images secondes. Et moi, ce qui m'a ému, c'est que, contrairement dans les autres films de Rossif, Rossif, c'est un documentariste, un cinéaste de montage reconnu, et un peu formé à l'école des documentaristes soviétiques, de pouvoir faire des collusions justement entre des rapports d'image, entre une idée et puis un événement. Et là, il s'est rendu compte assez rapidement que ce qu'il voulait retranscrire au travers d'une rencontre qu'il avait faite avec Mathieu, c'est-à-dire toute l'inventivité, la spontanéité de cette rencontre qu'il voulait retranscrire à l'écran. Il voulait en faire un opéra visuel. Donc, en fait, quelque chose qui se démarque totalement de tout repère historique, sociologique ou autre. Et je pense que le montage qu'il a utilisé, justement, comme tous les bons montages, c'était Hitchcock qui disait, un peu comme pour Delacroix, on ne doit pas montrer sa facture à l'écran. Et si vous utilisez des effets trop marqués, ces effets-là vieillissent. Mais si vous prenez la bonne distance vis-à-vis du sujet que vous filmez, je pense que c'est la seule façon de pouvoir laisser les choses se faire comme elles doivent se faire et de laisser le spectateur entière liberté dans son regard.
Alors quand justement Frédéric Rossif place sa caméra et ses caméras, puisqu'il en utilise plusieurs, pour filmer Mathieu en train de peindre, il en utilise deux. L'une qui va ralentir le geste de Mathieu, et l'autre qui est en temps réel. Alors c'est très très beau, cette alternance entre les deux rythmes, parce que d'abord on ne soupçonne pas la rapidité, même si on l'a lu, on la connaît, etc. On a l'impression que c'est l'inverse, donc tout d'un coup on comprend la fulgurance de ce moment de création quand même, parce qu'il y a quelque chose de très violent, d'une danse à la fois, très violent. Et puis vous parliez de distance tout à l'heure, de distance de la caméra. Par rapport à Mathieu, on ne sent pas effectivement une caméra introspective, ailleurs, c'est vrai, elle est à la juste distance. Par contre, on voit Mathieu peindre dans toutes les positions, pratiquement allongé, debout avec son bras, avec un gant, avec ses pinceaux, comme si c'était des flèches. C'est une véritable danse qu'il exécute. Et puis, il y a un très joli moment, vous allez peut-être nous en parler, c'est au début du film où on le voit peindre sur du verre. D'où venait cette idée de Frédéric Rossif et quelle était son intention? Parce que les deux hommes ont communiqué avant de faire le film, parce que même si c'est un moment de création, ce n'est pas un moment de création comme ça qui est tombé du ciel.
Non, pas du tout, c'est une rencontre. Ouais. Justement, cette idée, c'est Rossif qu'il a eue. Il a pensé un peu justement au film de Clouzot sur Picasso. Et il voulait saisir justement, quand vous parliez du geste filmé au ralenti, Le commentaire de Billedoux est très beau.
Voilà.
Je trouve que voilà, il vient par
Billedoux, c'est la voix
poétique.
Off qu'on entend.
Oui, c'est lui-même
qui parle.
Nathalie Nerval de la Comédie Française. Et donc l'idée, c'était de saisir ce que Billedoux appelait l'erreur gourmande. Mais il n'y a pas d'accident chez Mathieu. C'est ce que Rossif ne comprenait pas. C'est-à-dire, c'est pas comme Picasso, d'un accident, il va partir de métamorphoses successives. Pour Mathieu, c'est un engagement total et profond de son être. Donc c'est un moment de vérité. Donc, soit c'est raté, soit c'est réussi. Et quand Rossif voulait le faire peindre sur verre, ça agaçait un peu Mathieu, parce qu'il avait le sentiment de figer un peu son mouvement. Il a reproché parfois à Rossif de lui dire « Écoutez, cessez de vouloir me faire des sinusoïdes pour des raisons esthétiques, que ça passe bien à l'image, et laissez-moi peindre comme je veux. » Voilà, il y a eu ce petit moment où ils se sont accrochés. Et Rossif a compris, et c'est pour ça qu'il a abandonné un montage trop didactique qui aurait non pas rendu, comment dire, de vouloir rendre la spontanéité du geste créateur qui est plus rapide que la pensée. Et c'est pour ça que quand il filme Mathieu, il n'a pas tenté de vouloir tricher au montage ou dans le temps de l'exécution pour essayer de mystifier ce moment-là. Il l'a voulu justement...
Là, il y a un très beau respect.
Voilà. Mais c'est un peu une vérité plastique qu'il a voulu dégager, comme si, comme le monde Mondrian, voir plastiquement, c'est voir en conscience, c'est voir vrai.
Alors, habituellement, il peignait en public. Donc là, le public, c'est l'équipe de tournage ou y avait-il un autre public ?
Non, c'était l'équipe de tournage. Il y avait très peu de personnes. Les parties filmées, on le voit exécuter ces deux grandes toiles, c'est dans les studios d'Éclair à Épinay-sur-Seine. Et là, il y avait les quelques techniciens et justement, l'équipe avait été réduite. Et Rossif a utilisé volontairement deux types de caméras, des caméras 35 mm et des caméras 16 portées à l'épaule pour pouvoir justement avoir une plus grande liberté pour les opérateurs sans gêner Mathieu dans sa création. Mathieu allait mélanger ses couleurs en dehors du studio pour des raisons de sécurité. Il avait ses grands plateaux. Et ensuite, il revenait et il se lançait dans l'exécution. D'ailleurs, c'est émouvant de le voir peindre avec cette rapidité-là. Et c'est comme un mouvement d'autorégulation. C'est comme un être en devenir, cette toile qui apparaît sous nos yeux. Et on voit parfois, il trébuche ou il prend du recul. Mais il est toujours comme un danseur, comme vous le disiez. Mais c'est ça un peu ce côté un peu nietzschéen, d'une célébration de tous les ans, de quelque chose d'un spectacle dionysiaque, mais dans lequel il n'y a aucune volonté de se mettre en avant soi. Mais c'est une communion qu'il recherche. C'est ça qui a souvent été mal compris. On a parlé d'exhibitionnisme dans sa peinture, dans le fait qu'il peignait en public. Alors que pour lui, ce n'est pas des performances, ça n'a rien à voir avec ça.
Oui, oui, oui. Et puis, bon, ce qu'on pensait avant, ou ce qui a été mal compris, là, on a justement ce document, ce regard d'artiste l'un sur l'autre. Donc, on a l'exécution de deux grandes toiles, l'élection de Charles Quint et la nécessité de l'espérance. Mais il y a aussi la partie, enfin, on n'a pas encore évoqué la musique, mais avant d'évoquer la musique, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur les conditions du tournage. Revenons sur les conditions du tournage. Frédéric Rossif a souhaité des studios particuliers. Il y a eu un aménagement particulier, studio noir pour l'exécution d'une des toiles, studio blanc. Les deux étaient d'accord. Il y a eu vraiment échange de vues. Parce que le film, au final, est-ce que c'est un film uniquement de Frédéric Rossif ? Est-ce que c'est un film de Frédéric Rossif avec un petit peu de Mathieu ? Donc voilà, c'est un petit peu savoir comment les choses sont organisées.
Je crois que c'est un film choral et ce qui est particulier justement, c'est que bon, la partie technique, Mathieu l'a laissée entièrement à Rossif. Mathieu demandait simplement d'avoir une liberté de mouvement et de ne pas s'occuper de ce que Rossif allait filmer. Voilà, ça c'était les termes un peu du contrat moral qu'ils avaient passé entre eux. Pour le reste, pour ce qui concerne l'écriture du commentaire, François Billédou l'a fait de chez lui, après avoir visionné les images, en livrant son regard poétique sur l'œuvre de Mathieu et sur l'expérience auquel il avait participé après coup. Vangelis, lui, a été totalement et directement intégré à ce processus de création en dialoguant directement avec l'exécution de la toile qui se faisait au moment même. Oui. Alors, il y a une vérité, justement, une volonté de ne pas tricher, de mettre simplement des moyens techniques à disposition pour essayer de saisir l'instant et cet instant de vérité.
Alors, les rushs font combien et le montage fait combien ?
Écoutez, il y a beaucoup de rushs qui ont été perdus. Mais d'ailleurs, Mathieu le regrette sur ce que vous voyez de, par exemple, Charles Quint, la toile Charles Quint. Il y a plus d'une heure... d'une trentaine de minutes qui n'apparaissent pas à l'écran. Mathieu le regrette parce qu'il y avait des moments, il m'avait raconté que, un peu comme une balistique, on voyait, la peinture se projeter sans que le pinceau touche la toile et était projetée. Parce que ce qui est prodigieux avec Mathieu, c'est que, bien sûr, il a une virtuosité qu'il a développée d'année en année en pratiquant son art. et que lorsqu'une tache apparaît quelque part ou une projection de peinture, je veux dire, c'est la précision d'une balle réellement. C'est pas simplement une projection et le hasard.
Alors on
qui
le voit
fait
très très bien ça dans le
voilà.
film. Ça c'est très très beau parce que justement puis la peinture là, il explique dans votre interview qu'il a dû préparer aussi ses peintures pour qu'elles soient assez fluides ou
voilà,
qu'elles étaient trop
fait.
Fluides. Enfin bon, il y a tout un.
Cette peinture au tube.
Voilà, avec laquelle il écrit. C'est très émouvant aussi quand on le voit écrire les titres des tableaux. C'est un beau moment. Alors, il y a un autre moment assez surprenant dans le film de Frédéric Rossif. C'est ce jeu qu'il a proposé à Mathieu de faire une interview calligraphique. C'est un petit moment différent, complètement différent. Et puis, il y a aussi le moment où l'artiste lui-même, Mathieu, présente les affiches qu'il a créées pour Air France. Donc là, on a aussi un peu de Versailles, qu'il aimait beaucoup. On a des plans dans son appartement, il y a un mélange, il y a des visages d'enfants dans l'école maternelle. Donc c'est vrai que le film de Rossif, c'est un va-et-vient entre beaucoup de choses et qui nous permettent de, non pas d'accéder du tout à l'œuvre, parce que l'œuvre, elle existe en tant que telle, mais il nous permet de nous présenter l'univers de Mathieu. Alors moi, j'ai une petite question, parce que je suis curieuse. Cette usine qu'on voit à un moment, l'usine de Fontenay-le-Comte, elle existe toujours ? C'est
oui,
lui
oui.
qui l'a dessinée, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait, là, on a fait les plans, elle existe toujours.
Elle existe
oui.
toujours.
Ouais. Bon, malheureusement, il y a eu d'autres bâtiments qui se sont construits autour. Et donc, ça a un peu dénaturé un peu l'écran, parce que Mathieu avait aussi dessiné les jardins. Et ça a un peu dénaturé l'environnement proche de l'usine. Mais c'est une usine qui a fait date. Et il y a notamment de grands architectes ensuite qui ont repris un peu ces formes en étoiles, en cristaux. Je pense à des artistes comme Girodi, à des architectes. Et cette usine, parce qu'elle a surgi de l'imagination d'un peintre qui n'est pas architecte, donc avec une totale liberté. Mais Mathieu s'est toujours beaucoup intéressé justement à pouvoir confronter son imaginaire, sa volonté artistique, et de pouvoir se tenir au courant des dernières créations en matière, d'un point de vue technique, de pouvoir dialoguer avec les gens qui allaient œuvrer à la réalisation. Donc de pouvoir imaginer des procédés nouveaux pour pouvoir parvenir à finaliser ce qu'il avait rêvé au départ en dessinant ses plans.
Donc, je disais tout à l'heure que dans le DVD, il y avait aussi des bonus. Et il y a une interview de 2006 de Georges Mathieu que vous avez réalisée. Que vous a apporté à vous cette interview ?
Écoutez beaucoup, parce que Mathieu, c'est comme tous les artistes, il a toujours un côté qui est très secret. Il parle rarement de son art et il reprochait beaucoup aux esthéticiens de parler mal de peinture et d'aller chercher des équivalences ou des béquilles parfois intellectuelles pour essayer de parler de ça. Et lui, moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir un peu faire un prolongement du film de Rossif. Comme vous l'avez dit vous-même, il n'a pas tenté à faire le portrait d'un artiste, comme dit très bien Maud Billedoux. On n'approche pas, on l'approche à peine, voilà. Et moi, je voulais, parce que j'ai eu de longues conversations avec lui, pouvoir que le téléspectateur, à la vision de l'interview, se rendre compte que Georges Mathieu, même s'il a écrit des ouvrages et d'une limpidité, d'une clarté, d'une clairvoyance intellectuelle en tant que théoricien de l'art, est aussi quelqu'un, comme tous les grands esprits, qui arrive à synthétiser, à dire les choses de façon très simple, sensée et très clairvoyante. Et il y a comme, c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous laisser terminer l'interview par ce mot, par la définition qu'il donne de la beauté, c'est une présence qui sublime le reste. Et vous voyez, voilà, ça c'est quelque chose qui surgit comme ça de lui-même. C'est pas quelqu'un qui a des a priori sur quoi que ce soit, et je voulais essayer de pouvoir retrouver ça et ne pas avoir peur de poser des questions qu'un néophyte pourrait se poser vis-à-vis de la peinture, et de la peinture abstraite, et de la sienne en particulier, à savoir qu'est-ce qui est l'embryon de cette démarche, qu'est-ce qui anticipe la création d'une œuvre, l'état d'esprit dans lequel il se trouve, et que recherche-t-il dans la façon de peindre de cette façon-là. Voilà, je voulais vraiment qu'il puisse livrer au mieux qui il était au travers de ce qu'il avait accompli de son œuvre.
Yves Rescala, merci beaucoup d'être venu nous présenter ce DVD « Georges Mathieu ou la fureur d'être ». C'est un DVD qui est diffusé, distribué, diffusé, produit par Zoroastre, la maison Zoroastre. Terminons sur une phrase de Dali, si vous le voulez bien, Yves Rescala, sur Dali qui parle de la peinture de Mathieu. Les tableaux de Mathieu sont les décrets royaux de la discontinuité de la matière. Merci Yves Rescala.
Merci à vous.